Soyez bénis de l'Éternel, que Dieu vous bénisse, et Seigneur, c'est ton nom que nous voulons élever au-dessus de tout nom, afin que ta parole soit entendue et vue, et qu'elle soit, Seigneur, mise en pratique, afin d'accomplir pleinement ta volonté. Alors, Père, je te bénis de ce que tu parles maintenant au cœur des uns et des autres, et que tu ouvres l'intelligence pour comprendre ce que tu dis dans ta parole. Que la connaissance grandisse et que nous puissions, Seigneur, marcher en nouveauté de vie, jour après jour. Alors, nous te louons et nous te bénissons, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, Jérémie a fait allusion d'une situation qui s'est passée, une anecdote qui s'est passée donc au Canada l'an dernier. Et c'est dans ce lieu que le Seigneur m'a dit ouvertement, il m'a parlé, il m'a dit « Il faut que tu puisses faire quelque chose à une forme de livret, une formation prophétique, afin que tu puisses enseigner une partie de mon peuple qui est encore dans l'ignorance ou dans l'incompréhension parce que beaucoup ne connaissent pas ce que représente le prophétique. » Et donc à partir de là, j'ai obéi et pendant 3 mois, j'ai travaillé et je lui ai dit, Seigneur, j'aimerais aussi vivre ce domaine prophétique que je connais, mais le vivre par la foi. Et pour ceux qui me connaissent et qui ont connu ce qui m'est arrivé au mois d'août, ben, j'ai vécu un moment terrible puisque j'ai failli perdre, non pas la vue, mais avoir une vue double qui ne me servait à rien. Donc, et Dieu a fait un miracle, il a répondu à mes prières et c'est là où il m'a parlé en me disant, ce que tu entends, il faut que tu le voyes. Et les deux sont associés. À partir de là, j'ai fait, et j'ai déjà fait une formation lorsque j'étais en Guyane. Donc le thème général de cette formation, c'est le prophétique et la foi. Et à travers ce thème, le Seigneur m'a donné des messages, dont un que je vais vous apporter ce soir, lié à ce thème. Et qui va un peu rappeler quelques paroles que tu as dites, Philippe, la semaine dernière. Donc c'est un encouragement. Et le titre, c'est « Une lumière prophétique se lève dans la nuit ». Une lumière prophétique se lève dans la nuit. Alors, il faut juste savoir que la première intervention de Pierre à la Pentecôte n'a pas été de prêcher la repentance, mais si vous lisez bien les actes, actes 2, 17, c'est pas écrit, hein, Philippe, mais c'est pas grave. Il est dit que dans les derniers temps, le Seigneur dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, mais vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et les vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Donc, c'est symbolique de commencer comme ça. L'Église est née comme ça, avec cette parole prophétique. Et c'est à travers là que le Seigneur m'a permis de creuser et de comprendre pourquoi il y a tant de méfiance à travers ce ministère et tant d'exubérance. C'est tout ou rien. C'est où il y a des fous, où il y a des frileux et des méfiants. Parce qu'il faut savoir que la première opposition de l'ennemi vis-à-vis de l'homme, elle a été sur une parole. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que ce que tu as entendu, c'est vrai? Parce que si ce que tu as entendu, ce n'est pas vrai, comment peux-tu le mettre en application? Voilà la raison. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a dit dans ta vie? Est-ce que les promesses qui t'ont été faites, est-ce que tu les as vraiment entendues? Tu les as bien comprises? Est-ce qu'elles te sont destinées? Est-ce qu'il n'y a pas un prix à payer pour y arriver? En es-tu capable? Bref, il va ou te mettre dans l'orgueil ou te sous-estimer. Dans tous les cas, il veut que tu te taises. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre l'obstination de l'ennemi face au prophétique. Et quand on commence à comprendre et à lire la parole de Dieu, on comprend pourquoi il veut que l'Église se taise. Mais avant de se taire, pour pouvoir parler, il faut d'abord avoir entendu quelque chose. Alors, on va lire rapidement 1 Samuel 3, versets 1 à 3, passage qui est très connu. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Vous allez voir que les quatre versets que je vais énumérer sont tous liés à une situation d'obscurité. C'est la nuit. On dort. Pour faire court, ce que j'ai vu comme un scanner de la part de Dieu du corps de Christ aujourd'hui, c'est que le corps de Christ est dans un temps d'assoupissement, même on dort. D'accord ? Voilà ce que Dieu m'a montré quant à l'église corps de Christ. Et là, on voit bien que les visions n'étaient pas fréquentes, les paroles n'étaient pas fréquentes, mais il y a quand même de l'espoir. La lampe n'était pas encore éteinte. Et ça dépend de nous. Ça dépend toujours de nous et de notre compréhension et surtout de notre obéissance. 2 Pierre 1,19 « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Donc là, il y a une insistance de la part de l'apôtre Pierre qui dit « Faites attention, ne négligez pas, ne méprisez pas la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » C'est-à-dire, ne l'entendez pas et ne l'oubliez pas. C'est-à-dire que si Dieu parle, quel que soit, à travers quelle que soit la bouche, la personne, la situation, s'il parle, ce n'est pas en vain. Et aujourd'hui, la parole prophétique est devenue comme un discours commun, monotone. Oui, Dieu a parlé. Ben oui, oui, c'est bien. En fait, c'est comme si Dieu est au milieu de nous. C'est une personne quelconque au milieu de nous qui discute. Et puis, si c'est intéressant, ben, on va y prendre attention. Si ça ne nous concerne pas, ben, on n'y fait pas attention. Or, c'est là le danger et c'est là où le diable nous amène à ce que la parole devienne commune. Voilà, une routine, une habitude, on n'y prend pas conscience. Donc il dit, faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est encore la nuit. Et Éphésiens 5,8 dit, autrefois vous étiez ténèbres. Et ça, j'aime bien le retenir. Il y a une insistance. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marcher comme des enfants de lumière. Donc il y a encore cette notion d'obscurité, de nuit, de ténèbres. Sinon la lumière, elle ne sert strictement à rien. Éphésiens 5,14, c'est ce que tu as parlé la semaine dernière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce verset-là, c'est un peu l'état de l'Église corps de Christ aujourd'hui, dont nous faisons partie. Mais le Seigneur a toujours des paroles d'espérance. C'est ça qui est merveilleux, qui est formidable avec Dieu. C'est que ces avertissements, voire ces corrections, sont toujours sujets à une guérison, à un rétablissement, à un renouveau. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est qu'il dit d'ailleurs, je châtie celui que j'aime. C'est ça qu'il dit. Si tu ne te laisses pas châtier, tu es pour moi un fils illégitime. Hébreux 12. Mais si je te châtie, c'est que je te reconnais comme fils ou fille. C'est ça qui est splendide. Alors, vous avez vu, ces quatre versets sont liés à un état d'esprit, à un lieu qui est obscur, qui est ténébreux. Et il ne faut pas l'analyser simplement comme étant naturel, comme la nuit et le jour physique. Mais quand une attitude spirituelle dans nos vies, comme une marche avec Dieu, ça dépend comment vous marchez. Nous marchons dans les ténèbres. Mais de quelle manière? Et c'est là qu'on va développer. Et comme exemple, j'ai pris, selon la grâce de Dieu, les vierges folles et les vierges sages. C'est exactement la situation qu'on vit. Donc je vais prendre simplement quelques versets, Matthieu 25, 5 à 8, à 10, il est dit, comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. Donc là encore, on voit que c'est à un temps, c'est le soir, la fatigue étant là, démoralisé, désorienté, on m'avait donné rendez-vous à 16 heures, il n'est toujours pas arrivé, il tarde, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la question que moi, je me serais posée. Mais là, apparemment, pour la moitié d'entre elles, il y a de l'insouciance. Bon, il n'est pas là, il n'est pas là, on va l'attendre, et quand on attend sans rien faire, on s'assoupit. Quand il n'y a pas de mobilisation, quand il n'y a pas de motivation, quand il n'y a pas d'intérêt, quand il n'y a pas d'engagement, quand on ne fait rien, on s'assoupit. Et là, pour moi, l'attitude de ces vierges, une partie, c'est de la tiédeur. Et selon ma vision à moi, selon ma pensée, elle m'appartient, je peux considérer qu'une partie de ces vierges représente Philadelphie, l'église de Philadelphie dans Apocalypse, et une autre partie, la Odyssée. Certaines sont pleines de vigueur, pleines de bon sens, et d'autres sont tièdes. Alors, il est dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir, et au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Comme au temps de Samuel avec Élie. Mais la flamme n'était pas encore éteinte. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Or, là encore, la parole de Dieu ne se trompe jamais dans la conjugaison, dans la structure des phrases et dans ce qu'elle veut dire. Nous, on pense que 5 sont sages. C'est bien ce qui est dit au début. 5 vierges folles, 5 sages. Mais au final, il n'est pas dit que 5 étaient prêtes. Il dit celles qui étaient prêtes. Alors, on envisage 5, mais peut-être 4, je ne sais pas. Mais j'aime quand le Seigneur met un doute. Pourquoi? Parce qu'il t'oblige à regarder où tu es. Tu peux te prétendre sage. Tu peux te prétendre sage et montrer un témoignage de sagesse sans être prêt. C'est là où Dieu commence à mettre le doigt. Commence à mettre le doigt. Alors, la particularité de cette parabole est qu'elle est composée de 10 vierges. Ces 10 vierges sont, représentent 10 femmes qui représentent la future épouse de Christ. Donc, ces personnes, même si une partie est folle et l'autre sage, elles sont parties ensemble pour aller se marier. C'est l'Église corps de Christ. Nous sommes l'épouse. D'accord? Et si on est logique avec nous-mêmes, elles sont toutes nées de nouveau. Parce que sinon, tu ne fais pas partie de l'Église corps de Christ si tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas converti, si tu n'as pas donné ta vie à Christ, si tu ne crois pas, tu ne fais pas partie de ces vierges, folles ou sages. Mais il faut bien être conscient qu'elles partirent toutes les 10 pour aller à la rencontre de l'époux, afin de se marier. Ça, c'est le but. Toutes sont appelées aux noces de l'agneau en devenant saintes et irréprochables, sans tache ni ride. Ça, c'est ce que Dieu attend de son épouse. Et ce chemin qu'elles ont pris, du départ jusqu'à l'arrivée, pendant ce cheminement, eh bien, elles doivent grandir en maturité pour devenir saint, sans tache ni ride. Et dernièrement, juste pendant les fêtes, je lisais et je dis, Seigneur, donne-moi une parole pour cette saison nouvelle, me concernant, moi. Et je suis tombé dans Éphésiens 1, 7, qui dit, « Je vous ai élu dès la fondation du temps pour être saint et irréprochable devant ma face. » je t'ai élu mon fils depuis la nuit des temps, depuis le fondement des temps, pour que tu te présentes devant ma face saint et irréprochable. Il n'y a pas de condition autre, il n'y a pas d'alternative. C'est pour cela que tout au long de ce cheminement de ces personnes, de ces vierges que nous sommes, d'accord, nous avons comme objectif de devenir saint et irréprochable sans tache ni ride. C'est comme ça qu'on reconnaîtra un enfant du Seigneur. Et pour moi, c'est ça la sagesse. C'est comme ça qu'on reconnaît la sagesse de quelqu'un, la sanctification, la consécration, la mise à part, le témoignage, être irréprochable dans ce que Dieu seul voit dans nos vies. Parce que tout ce que vous voyez de Gabi, c'est ce que je peux me laisser dévoiler. Mais ce qu'il y a dans mon cœur, dans mon âme, vous ne le savez pas. Qu'est-ce qu'un hypocrite ? C'est quelqu'un qui sourit à tout le monde et qui par derrière vous déteste. Seul Dieu le voit. C'est ça, être irréprochable, c'est que ton comportement, ton attitude et ton témoignage, non seulement il est devant les hommes, mais il est surtout devant Dieu. Parce que vous verrez qu'au final, ça ne la fera pas. Maintenant, cette parabole est prophétique sur deux points. Elle nous annonce le futur en nous dévoilant le présent. Elle nous annonce le futur en nous dévoilant le présent. Et elle met en lumière la préparation de ces vierges et de leur attitude. Elles ont toutes une lampe avec de l'huile qui brûle. Chaque lampe a besoin d'huile pour éclairer et d'une flamme pour brûler l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit, et la flamme, c'est l'onction. Ça, c'est encore ce que j'interprète. C'est l'onction du Saint-Esprit manifestée par comment ? Notre passion, notre zèle, notre engagement. Tout ça démontre notre sanctification, notre mise à part pour le service. La lumière brille de par cette combustion. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Et notre témoignage, sans huile, pas de lumière, sans flamme, pas de lumière. En fait, il faut comprendre que on peut avoir de l'huile, le Saint-Esprit, on peut avoir de l'huile, on peut avoir des tonnes et tonnes d'huile. Vous pouvez avoir la partie où l'huile est conservée, qui va servir de contenant pour servir de lumière. Mais vous pouvez avoir toute l'huile que vous voulez s'il n'y a pas une flamme. S'il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de lumière. Il faut bien que cette flamme vienne de quelque part. Il faut bien que quelqu'un allume cette flamme. C'est l'onction. Parce qu'on peut être, d'ailleurs, n'oubliez pas, quand le Seigneur a été baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit, puis l'Esprit l'a poussé dans le désert pour y être tenté par le diable. C'est au retour qu'il a été rempli du Saint-Esprit. D'accord ? Où il y a eu cette passion, ce zèle, cette joie, cette force, tout est lié à comment nous voyons Dieu. Qu'est-ce qu'il est pour nous ? Qu'est-ce qu'il représente ? Avant que, qu'est-ce que nous, on représente pour lui ? Pour moi, il est devenu plus que mon Seigneur et mon Sauveur. Même des fois, je dis, Seigneur, j'ai pas de mots. Il n'y a pas assez de mots en français qui puissent traduire ce que je ressens pour toi. Et pourtant, je sais que je vis dans des manquements, je sais que je vis dans des faiblesses, je sais que je te déçois, je sais qu'il m'arrive de te mépriser, voire de te blasphémer, mais pourtant, il y a quelque chose en moi qui fait que je veux faire abstraction en te demandant pardon, en m'humiliant devant ta face. C'est ça l'attitude tout au long de cette sanctification que Dieu met en lumière. Alors, s'il n'y a pas ce zèle en nous, la flamme est aussi petite qu'elle était au temps d'Élie, du sacrificateur Élie, qui savait que ses deux enfants péchaient. Écoutez-moi bien, parce que ça va être la suite. Élie savait qu'il avait deux fils qui étaient pécheurs devant l'Éternel et il ne les a jamais corrigés. Et on va en arriver là, attention. C'est le point stratégique, névralgique, qui risque de faire mal à la tête, parce que la lampe était basse, mais Samuel qui avait été appelé de Dieu, parce qu'il y a toujours une relève, toujours Dieu est là pour prendre quelqu'un qui va ranimer la flamme. Et donc, une question que je voudrais vous poser de la part du Seigneur, elle m'a été posée, je vous la pose. Quelle est l'intensité de ta lumière et qui en bénéficie? Encore une fois, vous pouvez avoir tous les dons, les exercer, faire des miracles et tout, et Dieu dit, tu es charnel. C'est exactement la remarque que fait Dieu à travers Paul à l'église de Corinthe. Ils ont tous les dons, ils ont tout ce qu'il faut, la puissance, et pourtant, une partie de cette église est charnelle. Vous êtes charnel. D'autres sont spirituels, mais une partie est charnelle. Et pourtant, ils sont nés de nouveau. Et pourtant, ils sont chrétiens. Ils louent Dieu. Ils font des miracles. Et Dieu dit, mais vous êtes toujours charnel. Parce qu'au milieu de vous, il y a de la jalousie, de la rivalité. Et pire, il y a des obscénités. Il y a de la débauche. Et pourtant, vous êtes remplis de la puissance de Dieu. Alors, on va se baser sur un critère de puissance. Mais si le cœur n'appartient pas à Dieu, si le cœur n'est pas à Dieu, c'est votre cœur que Dieu va mettre en lumière lorsque vous vous présenterez devant lui. Donc, quelle est l'intensité de la parole, de la lumière qui est en nous, en chacun d'entre nous? Il faut que la parole révélée par le Saint-Esprit brille en nous pour éclairer notre environnement. Notre attitude, notre témoignage, c'est la parole qui s'exprime au travers de nous. Et la parole, c'est Christ. La parole, c'est Jésus. C'est cette flamme qui me permet à Christ de nous illuminer. 2 Timothée 1,6. C'est pourquoi je t'exhorte, dit Paul à Timothée, à ranimer la flamme, à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ça veut dire que quelque part, beaucoup d'entre nous avons un don, mais pour que ce don soit vu et qu'il soit profitable à notre environnement, ben, il faut qu'il y ait cette flamme qui à nouveau grandisse, cette passion, cette foi. Amen. La flamme, la foi, ça nous permet de nous exprimer sans détour, sans crainte, parce que nous savons que nous parlons de la part de Dieu et nous savons que nous sommes des témoins ici-bas de la grâce merveilleuse de Dieu. D'ailleurs, si nous sommes sauvés par grâce, c'est par le moyen de la foi. C'est par la foi et à cause de la foi. Philippiens 2, 14, 15. Il y a beaucoup de versets parce qu'en fait, ce message me permet de ce que Dieu m'a dit. Chaque fois que tu iras dans une église nouvelle, tu porteras ce message de façon à l'adapter par rapport à l'état de l'église où tu iras. Il est dit, Philippiens 2, 14, 15, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ça veut dire que ces vierges, pendant qu'elles se côtoyaient les 10, parce qu'elles étaient amies, il ne faut pas les séparer. Hein. Il ne faut pas dire, tiens, il y a un côté les bons et un côté les mauvais. Non, quand elles sont parties, elles étaient potes. Hein. Elles ont discuté ensemble, elles ont fait ensemble. D'ailleurs, elles ont dormi dans le même lieu ensemble. Elles étaient frères et sœurs, comme nous le sommes. Elles n'étaient pas rivales. Hein. Donc, pendant ce chemin, Dieu dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Quand Dieu te parle prophétiquement et qu'il te dit, lève-toi, fais ceci, fais-le, sans réfléchir. Parce que si c'est Dieu qui parle, c'est la foi qui agit. D'accord? Afin que vous soyez, et c'est ça encore, irréprochables et purs. Il y a encore cette notion aujourd'hui qui est super importante dans le corps de Christ. C'est être irréprochable et pur, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lequel vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous sommes censés briller, mais attention, encore une fois, ce n'est pas une lumière falsifiée, ce n'est pas ma lampe de poche. C'est là, quand je dis une lumière falsifiée, c'est-à-dire que vous démontrez quelque chose que vous ne vivez pas du tout. On peut tromper l'homme, mais encore une fois, ne vous amusez pas, on ne va pas s'amuser à tromper Dieu. C'est ça qu'on n'arrive pas à saisir. On a tellement pris l'habitude que Dieu est bon que l'on a oublié qu'il était saint et juste. Il est saint et juste. Et vous allez voir à la fin, il y a une petite phrase qui m'a été donnée, qui m'a tué sur le coup, ressuscité par la suite. C'est la parole prophétique, la parole révélée qui nous conduit dans l'obscurité jusqu'à notre destinée. La parole prophétique, c'est la parole réma, celle qui vient de Dieu. Pourquoi tu es parti, toi? C'est bien les tablettes, mais t'appuies à côté, c'est parti. Un verset que tu as dit, Alain, dans ton message, acte 12, 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Qu'est-ce que c'est que la parole de leur témoignage? D'où vient ce témoignage? Eh bien, on le trouve, la réponse, dans Apocalypse 19, 10. Et Jean dit, « Je tombais à ses pieds pour l'adorer. » C'était un ange. « Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Ah, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. La parole de Dieu, c'est une prophétie globale. Et chaque fois que Dieu te parle à travers la parole, c'est une parole réma, une parole qui sort du trône de Dieu. Et des fois, elle est pleine de miel, elle est douce, elle est mielleuse. Mais quand tu l'avales, c'est ce que Dieu a révélé à Jean, elle descend dans tes entrailles et elle devient amère. Parce qu'elle te révèle qui tu es vraiment. Premièrement, elle te révèle toi qui tu es vraiment. Et ce que tu vis dans un contexte de communauté. Mais d'abord, elle se révèle à toi pour montrer qui tu es vraiment. Parce que pour se repentir, il faut que tu sois conscient de quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Parce que si je vous demande de vous repentir sur quelque chose que vous ne savez pas, vous allez dire, de quoi vais-je me repentir, mon frère? Mais si Dieu révèle en toi quelque chose qui n'est pas agréable à lui pour ton bien, non pas pour te sanctionner, Dieu n'a jamais sanctionné. Nous, nous sanctionnons nous-mêmes, au final, en nous désapprouvant devant Dieu. Mais si Dieu dit ce que tu fais, je ne peux pas l'accepter. Parce que ça sera au détriment de ta vie. Donc, voilà le témoignage de la prophétie. Deuxième point. Et on va rentrer dans quelque chose un peu plus pointu. Au milieu de la nuit, on cria. C'est une voix. On cria une voix. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Il y a une voix, une instruction. Une voix, une instruction. Une parole, un but. Si Dieu vous parle et qu'il ne te dit pas ce qu'il attend de toi, il manque quelque chose. À toi de demander la suite. Si on te prophétise sur quelque chose, mais que tu ne comprends pas la destinée, il y a un souci. Une voix, une instruction. Voici l'époux, allez à sa rencontre. OK? Et ça, le peuple de Dieu a perdu l'habitude d'écouter les instructions de Dieu. Ce que tu entends dans l'esprit est lié au prophétique, et ce que tu vois dans l'esprit est lié à la foi. Entendre et voir t'amène à croire. Entendre et voir t'amène à croire. Jean a envoyé des disciples vers Jésus en disant, es-tu vraiment celui qui doit venir? Il le savait très bien. Réponse de Jésus, dis-lui ce que tu as entendu et ce que tu as vu. Entends et vois, prophétique et foi. Pour se lever et briller, il faut d'abord se réveiller. Alors, là, il y a quelque chose. C'est qu'on envoie souvent des chrétiens au charbon en disant, il faut que tu fasses ceci ou que tu fasses cela. Mais comme ils sont endormis, il y a un souci. Et souvent, les gens traduisent ça, attends, j'ai rêvé d'un truc cette nuit. Or, c'est une réalité. Mais on le pense comme un rêve. Pour se lever et briller, il faut d'abord se réveiller. Comment ? En veillant, car seul un bruit, une voix peut nous réveiller. Moi, quand je dors, il peut y avoir quelqu'un devant moi. Si je ne le vois pas, je ne sais pas qu'il y a quelqu'un. Par contre, s'il fait du bruit, c'est ça qui va me réveiller. OK ? Et donc, avant de marcher par la foi, il faut que tu entendes ce que Dieu te dise. Il faut que tu entendes quelque chose qui t'interpelle. On cria dans la nuit. C'est-à-dire qu'il y a une intensité dans la parole de Dieu aujourd'hui qui devient plus forte parce que c'est urgent. Il y a une intensité. Dieu parle de plus en plus fort afin de faire taire la voix du monde et de ta chair. Il est obligé de hausser le ton, non pas que je le fais maintenant, mais de façon à t'interpeller. Dieu cherche à interpeller parce que nous sommes au bout du bout et qu'il ne veut qu'aucun ne se perde. Jésus a dit au Père, hormis le Fils de la perdition, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Ça, c'est la vision de notre Seigneur. D'accord ? Est-ce que c'est la nôtre ? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À chaque lettre liée aux sept églises de l'Apocalypse, ça finit de la même façon. Il ne parle pas de voir ou quoi que ce soit. Il dit « Tu m'as entendu ? Tu as entendu ? À celui qui est fidèle, je lui donnerai ceci. À celui qui croit, il aura cela. À celui qui persévère, ceci. » Mais c'est toujours « Est-ce que nous entendons ce que l'Esprit dit à l'Église ?» Mais comme nous ne savons plus écouter, nous imaginons ce que Dieu aurait pu dire. Et là, ça devient grave. Et ça, c'est le jeu de l'ennemi. C'est d'interpréter à notre façon une éventualité de ce que Dieu aurait pu dire. Regardez YouTube, regardez les messages, et si vous voulez être écœuré, il y a de quoi. Une éventualité d'interpréter la parole de Dieu, parce que comme on ne l'a pas entendu, d'ailleurs, le diable, Satan, qui il est venu confronter ? Est-ce qu'il a confronté Adam ou Ève ? Il est allé voir quelqu'un qui n'avait pas entendu la parole de Dieu. Simplement, elle lui avait été retransmise par Adam. Donc, il est allé voir quelqu'un qui n'était pas là quand il a entendu. Et là, il a dit, « Toi, tu n'es pas sûr. Donc, si je commence à mettre un doute, tu vas mettre le doute à celui qui l'a réellement entendu. » Et voilà ce qui arrive. Puis, une fois que l'on a entendu... Terrible, cette tablette. Ça va, vous suivez ? Je ne suis pas trop compliqué. Hein ? On me suit. Suis le Saint-Esprit, c'est mieux. Alors, une fois que l'on a été réveillé, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, un homme ou une femme, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux pour savoir ce qui se passe. Puis on ouvre les yeux pour voir ce qui se passe et on réagit par la foi. Romains 10, 17. Et là, ça a été un verset où le Seigneur m'a interpellé. Romains 10, 17, il est dit, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, pas la parole de Dieu. Pourquoi ? La parole de Dieu fait référence à la Bible en général. Mais là, c'est la parole de Christ. Et les traductions plus poussées du grec disent de la parole prophétisée du Christ. La parole prophétisée du Christ. Et après, il y a plein d'autres versets qui vont commencer à expliquer ça. Alors, il est dit que la foi vient de ce que l'on entend et non pas de ce qui est lu par l'intelligence charnelle. Parce que nous, si on retransmet ça sur la parole écrite, elle est lue, elle n'est pas entendue. Or, Dieu nous demande de lire la parole de Dieu en l'écoutant, ce qui est différent de la lire. Parce qu'en l'écoutant, vous mettez en œuvre votre foi, vous arrêtez votre intelligence charnelle et vous laissez l'intelligence de l'esprit travailler, prendre le relais. Et là, on comprend beaucoup mieux la parole de Dieu. Et je vous garantis que ceux qui n'aiment pas lire la parole de Dieu, quand vous commencez à la lire de cette façon, vous ne vous arrêtez plus. Parce qu'il y a révélation sur révélation sur révélation sur révélation. Et on dit, Seigneur, stop, j'arrive pas à enregistrer. Révélation sur révélation. Quand vous commencez à écouter, à entendre la parole de Dieu, et non pas à la lire, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Et c'est là la flamme qui commence à grandir. Il y a cette passion qui commence à grandir. Cette joie à lire la parole, à converser, à discuter, à communier avec Dieu, et toujours plus, et toujours plus. Et demain, qu'est-ce que tu vas me révéler encore? Et ça donne une envie nouvelle de plonger dans la parole de Dieu et de la comprendre. C'est merveilleux. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand on lit la parole de Dieu, quand on la lit, est-ce pour nous une révélation ou une information? La Bible dit, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point. Si tu la lis dans la chair, c'est une info. Hein. Pas un conseil. Un conseil n'est pas un commandement. Je te conseille de prendre l'aspirine ou quoi que ce soit parce que tu es malade. Mais si je te dis, je t'ordonne, tu vas le faire. Alors, quand on lit sous forme d'information, on dit, Seigneur, ah, mais moi, je n'avais pas compris. Or, quand c'est une révélation, il n'y a plus de doute. Et quand ça devient une révélation, tu ne peux pas dire, Seigneur, je ne savais pas. Faute de connaissance, mon peuple périt. Mais lorsqu'il y a la connaissance, tu ne pourras jamais te présenter devant Dieu en disant, je ne savais pas. Quand on lit la parole de Dieu ou quand on l'entend, est-ce que c'est une réalité ou une éventualité? Si Dieu te dit, je t'ai donné l'onction, la puissance pour guérir les malades, c'est une réalité ou une éventualité? Est-ce que peut-être, si j'impose les mains aux malades, peut-être vont-ils être guéris? Est-ce que c'est biblique? Ou est-ce que c'est une réalité? Ça, c'est encore une révélation. Parce qu'une fois que tu es devant le malade, tu ne vas pas dire, si je prie, est-ce qu'il va être guéri? Alors, vaut mieux ne rien faire. Et dire, Seigneur, pardonne mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. En ouvrant les yeux, après avoir été interpellées, les vierges folles constatent qu'elles n'ont pas assez d'huile pour continuer leur chemin. Elles demandent de l'aide aux autres vierges qui les conseillent d'aller en acheter. Et là, je m'arrête. Le Saint-Esprit, lorsque je préparais cette truc, m'arrête et me dit, Gabi, est-ce un bon ou un mauvais conseil que l'on ont suggéré les vierges, entre guillemets, sages aux folles? Je vous pose la question, est-ce que ça a été un bon ou un mauvais conseil? Réfléchissez. Elles auraient pu les suivre, elles auraient pu suivre les autres vierges et profiter de leur lumière, mais en arrivant à la porte, elles n'auront pas brillé, elles auraient été refoulées, quoi qu'il en soit. Parce que, qu'est-ce qui empêche, écoutez-moi bien, on raisonne charnellement et après on raisonne spirituellement. Charnellement, j'ai plus d'huile. Qu'est-ce qui m'empêche de m'accrocher à mon frère Jérémie, qui a de l'huile, en disant, je te tiens à la ceinture, marche. Tu m'éclaires, on va au bout. Sauf qu'en arrivant, quels critères il faut pour rentrer par la porte? Il faut être une lumière qui brille. Il faut que le Christ en toi vive. Or, celui qui est éteint, il n'y a pas de Christ. Donc ça veut dire que quelque chose s'est passé. Donc même si je le suis par sa lumière, mais lorsque je me présenterai devant Christ, enfin devant la porte, je serai refoulé. Refoulé. Parce que j'aurai tenter quelque chose. Vous rappelez, c'est un certain homme qui s'est présenté dans le festin des noces et il n'avait pas la bille. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Dehors, dehors, dehors. Oh, mais calme-toi, Gabi, t'es dur là. Non, 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 je ne suis pas dur. Non, non, je ne suis pas dur. Il y a une réalité aujourd'hui. Il y a une réalité aujourd'hui. Tu ne peux pas t'amuser et dire, éventuellement, je vais m'infiltrer et passer, personne ne me verra. Oui, personne ne te verra, Dieu lui t'a vu déjà. Donc, mais Pourquoi le conseil aurait pu être différent? On va au but. Écoutez-moi bien. Vous êtes tous sages. Je suis le seul insensé. Pourtant, je suis un frère et j'ai marché 30, 40 ans avec certains. 40 avec Alain. J'ai marché longtemps avec vous. Vous me connaissez. Vous allez me refouler simplement parce que j'ai plus d'huile? Qu'est-ce que vous auriez pu faire en réfléchissant un peu? Pourquoi ne pas conseiller la repentance et demander au Saint-Esprit de remplir tout à nouveau mon vase d'huile? Mais je vais vous donner un exemple probant plus tard, encore plus fort. Pourquoi ne pas avoir conseillé à ces vierges de se repentir? C'est trop tard pour aller acheter. Mais le pire, le conseil, et là j'ai eu mal quand le Seigneur m'a révélé ça, il dit beaucoup, moi j'ai donné des conseils, mais beaucoup dans l'Église ont donné des conseils qui n'étaient pas bons et qui ont envoyé directement dans le monde ceux qui n'avaient pas de lumière. Aujourd'hui on perd des frères et des sœurs à cause de nos conseils. On a perdu beaucoup de frères et des sœurs à cause de mauvais conseils. Au lieu de leur dire, la seule chose que je peux te dire, c'est que si tu te repens sincèrement devant Dieu, à nouveau, tu brilleras avec encore plus de force et d'autorité. Et la bénédiction demeurera sur toi et ta famille. C'était ça qu'il fallait conseiller à ces vierges folles. Qu'elles se repentent parce qu'elles étaient insensées. Elles étaient folles. Comment la folie les a-t-elle gagnées? On l'a vu, murmure ou attitude négligente, orgueil ou sous-estime de soi ou qui n'a pas envie d'être guéri. Enfin bon, on peut tout donner des situations qui peuvent être justifiées dans le monde, mais pas avec notre Seigneur. Parce qu'il dit, même, tout ce que tu veux, ma grâce te suffit. Et il nous suffisait de conseiller. Souvent, on perd des frères et des sœurs quand on ne dit pas la vérité. On ne dit pas la vérité. On sait que quelqu'un est dans le péché. Dieu dit, si tu ne dis pas la vérité à ton frère, je te redemanderai sa vie. Parce que tu ne l'as pas amené à la repentance. Et moi, je sais qu'on a perdu des frères et des sœurs parce qu'on ne les a pas conseillés. Parce qu'on a dit, si je lui dis la vérité, il va m'en vouloir. Or, je préfère que ce soit mon frère qui m'en veuille aujourd'hui et qui me dise merci plus tard que Dieu m'en veuille. Je préfère avoir comme ennemi Satan que Dieu. Si Dieu te dit avec amour, corrige, reprends, censure même, c'est ce que dit Paul à Timothée, avec amour de façon à gagner l'âme de ton frère. À un moment donné, même Paul dit, j'ai voué à Satan deux hommes afin qu'il sache exactement ce que ça veut dire que de blasphémer. Pour les récupérer, c'était l'intention de Paul, pour les récupérer. Ce n'est pas pour les punir, c'est pour les récupérer. Dites, mais si tu vois quelqu'un qui dort et qui n'en a rien à faire du Seigneur et qui est un moqueur et que tu rigoles de ses âneries, qu'est-ce qui se passe? Quel est le conseil? Quel est le conseil aujourd'hui? Beaucoup sont de l'église de Laodicée, des tièdes. Ils pensent être riches, ils pensent avoir tout, mais ils n'ont rien. Alors que le Seigneur nous conseille d'acheter du collyre pour oindre nos yeux afin de constater la situation que l'on vit. D'ailleurs, ma guérison à moi, elle a été spéciale dans mes yeux parce que j'ai compris que, heureusement que Philo était là, parce que des fois on peut dire, mais tu dis n'importe quoi là. Moi, mon problème de vue, je lui ai dit, j'étais persuadé que j'avais du collyre à la maison, et le collyre c'est de la flotte, hein. C'est de l'eau, enfin, c'est un truc. J'ai dit, tiens, il faut que je me rince les yeux parce que Dieu m'avait dit, impose-toi les mains avec mon collyre. Mais moi, la parole révélée n'avait pas encore fait son effet. Donc, bien sûr, charnellement, je dis, je vais par la foi prendre du collyre, puis mettre dans les yeux, m'imposer les mains et tout va y aller. Mais comme je ne voyais rien du tout, je n'ai pas trouvé le collyre. Heureusement. Et Philo me dit, mais si, il est là le collyre. Mais quand j'ai relu la Bible, parce que le Seigneur me dit, lis ce que tu es en train de lire là, et lis-le dans l'esprit, depuis quand on met de l'huile dans les yeux. Parce que le mot « oindre », c'est lié à l'huile. J'ai vérifié, j'ai cherché dans la parole de Dieu. Et médicalement, on ne met pas d'huile dans les yeux. Et là, le Seigneur dit « Achète de moi du collyre pour oindre tes yeux ». C'est une question d'esprit. C'est toujours spirituel. Et c'est là où je me suis imposé les mains face à une révélation d'un message où la guérison est venue instantanément. La révélation de la parole de Dieu. Et maintenant, la bonté de Dieu pour ceux qui se repentent. Jean 13, 6 à 11. Là aussi, quand j'ai lu ça, j'étais en Guyane au mois de novembre, et je disais, Seigneur, mais si vous relisez le contexte, il y avait les 12. C'était à Sainte-Seine. Mais à un moment donné du repas, il se lève et il va faire le lavement. Donc, il est dit, il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu vas me laver les pieds ?» Jésus lui répond, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Et Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non, pas tous. » Car il connaissait celui qui avait, quel est le livret. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Et moi, je suis obligé de vous dire ce que le Seigneur m'a dit. Ne m'en voulez pas. C'est ma responsabilité devant Dieu, mais tous ici ne sont pas purs. Mais vous allez voir que ce n'est pas une sanction. Attention, je vous l'ai dit qu'à la fin, le message c'est de l'espérance. C'est en fait, Dieu est en train de révéler dans nos cœurs des situations pour que nous devenions purs. S'il ne nous laisse pas, c'est encore une fois un médecin qui détecte une maladie en vous et qui vous dit au revoir, c'est pas un bon médecin. Mais par contre, celui qui détecte une maladie, qui te dit voilà le médicament qu'il faut que tu prennes pour être guéri, c'est un bon médecin. Or, il y a la solution. Les pieds doivent être lavés car ils sont en contact permanent avec le sol ou spirituellement avec le monde. Et lorsque nous marchons dans l'obscurité, nous ne voyons pas où nous marchons. C'est logique. D'accord ? Il nous faut être capable de dire à son frère, tes pieds ont besoin d'être lavés et purifiés. C'est ce que je vous dis. Il faut qu'on soit capable, entre nous, de nous dire la vérité quand elle existe, quand il y a une situation réelle. Psaume 119, 5, étaye ce que je suis en train de vous dire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole me permet d'éclairer le chemin que je prends, plein d'embûches, plein d'embuscades. Et Luc 19, 20, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si tu ne sais pas où tu mets les pieds et que tu le mets sur un serpent, tu vas te faire piquer. Si tu marches sur un scorpion, tu vas te faire piquer. Mais si tu es éclairé, si la lumière de Dieu, la parole de Dieu est une lampe à tes pieds, elle va éclairer ton chemin dans l'obscurité et tu verras toute la puissance de l'ennemi et tu pourras la déjouer. Tu pourras passer par-dessus, plutôt même la vaincre, puisque même tout ce que l'ennemi fera ne pourra pas t'atteindre. Voilà pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu sous forme de révélation. Maintenant, dans les 12 là, ce qui est terrible, Jésus sait que tous ne sont pas purs, mais il dit, le fait simplement que je vous lave les pieds, vous allez devenir, vous êtes purs. Il y a une contradiction. Il dit, vous êtes purs parce que je vous lave les pieds, alors qu'il sait très bien qu'au milieu d'eux, il y a le fils de la perdition. Mais on fait abstraction de Judas, parce que Judas a eu la chance jusqu'au bout de se repentir, si on peut appeler ça une chance, puisqu'il sait qu'à un moment donné, lui-même demande au Seigneur, est-ce moi qui vais te trahir? Et Jésus lui dit, oui, c'est toi. Or, il est dit que avant de rentrer dans la chambre haute, les désirs de trahir Dieu, Satan l'avait mis dans son cœur. Mais quelque chose d'important, c'est qu'en sortant de la chambre haute, Judas a été possédé, puisqu'il est dit, Satan entra en lui. Pour moi, c'est une possession. C'est-à-dire que Dieu, écoutez-moi bien, il nous met en lumière la situation que l'on vit. Il dit, tu as la possibilité de te repentir. C'est simplement une pensée qui est venue dans ton cœur. Tant qu'elle n'a pas été actée, tu as la possibilité de te repentir. C'est pour ça que notre conseil, il est là. Conseillons aux gens de se repentir. Mais qu'est-ce qu'a fait Judas ? Parce qu'il avait demandé 30 pièces d'argent, parce que c'est lui qui a provoqué le péché. Ce n'est pas le péché qui est venu jusqu'à lui. C'est quand même Judas qui est allé voir les pharisiens en leur demandant « Qu'est-ce que vous me donnez en échange de Jésus ?» C'est lui qui a provoqué. Donc il savait qu'à l'avance, l'argent était plus intéressant que Jésus. D'ailleurs, j'ai regardé dans Internet, 30 pièces d'argent équivaut à un salaire, un SMIC d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte pour 1300 euros condamné et injuste ? Mais on ne parle pas de Judas. Il a parlé au pluriel. Pourquoi Jésus parle au pluriel ? Et pourquoi il dit « tous ne sont pas purs ». Il aurait pu dire « un d'entre vous n'est pas pur ». Pourquoi il a dit « tous ne sont pas purs » ? Vous savez de qui il parle ? À votre avis ? Au moins un, en plus de Judas. Exactement. Pierre, sur lequel j'ai bâtirai mon église. Pierre, l'apôtre Pierre, à ce moment-là, il n'était pas pur. Parce que Jésus dit dans Luc 22, « Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Il n'a pas prié pour autre chose, il a prié pour sa foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu, converti, affermis tes frères. Pourquoi ? Parce qu'il venait de lui dire qu'avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Dites-moi la différence s'il y a deux personnes qui se présentent à vous, un traître, un renégat. Quelle différence ? Quelle différence entre un traître et quelqu'un qui te renie publiquement, avec des imprécations, avec force ? Non, je ne suis pas de celui que vous dites. Je ne connais pas cet homme. Jamais de la vie, je n'ai côtoyé Jésus. Si ce n'est pas un reniement puissant, or, Jésus l'avait prévenu. Et c'est ça la différence. Le conseil, Jésus avait prévenu Pierre qu'il allait faire une ânerie, une grosse ânerie, même si Pierre dit, j'irai jusqu'à la mort avec toi. Quand le coq a chanté, il est dit que le regard de Pierre a vu le regard de Christ et il a pleuré amèrement dans la repentance. C'est là, ça lui a sauvé la vie. Ça lui a sauvé la vie. Pierre, et on ne parle pas de Thomas, l'incrédule et du reste, dans la bande des 12. On se focalise. Pourtant, Jésus dit, le fait que je vous lave les pieds, vous serez purs. Jean 13, voilà quelque chose encore qui est mal interprété. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Car il ne parlera pas de lui-même, donc le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et j'ai bientôt fini. Il vous annoncera les choses à venir. Ça s'appelle de la prophétie. Quelqu'un qui vous dit ce qui va se passer, c'est prophétique. Il entend et il retransmet ce qu'il a entendu de Jésus, de la parole écrite, celle-ci, la parole écrite, mais il vous annoncera les choses à venir. C'est pour ça que le domaine prophétique est très très important. Pour comprendre ton présent, il te faut connaître ton futur. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais c'est censé ce que je viens de vous dire. Parce que moi, je connais ma destinée. Et je sais ce qu'il faut faire pour garder mon salut. Donc, connaissant la finalité de ma vie, si je ne travaille pas à mon salut, je l'ai perdu. Si je travaille à mon salut, je l'aurai toute l'éternité en Christ. Mais pour comprendre ton présent, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et je vais finir par une révélation que le Seigneur m'a donnée. Voilà ce qu'il dit. Réveille-toi à la parole de Christ. Lève-toi par la foi pour savoir qui parle. Puis marche en direction de la voie et suis ses instructions. Beaucoup se sont levés à la voie, mais peu se sont déplacés pour accomplir les instructions, car ils ne se sentaient pas concernés par l'appel de notre Seigneur. Et de ce fait, ils n'étaient pas prêts. Et ils sont retournés se coucher. Vous êtes tous purs si vous croyez en Dieu. Réveille-toi, lève-toi et marche dans ton appel à la rencontre du Christ comme un ouvrier rempli de cette lumière prophétique. Et la dernière phrase m'a ébranlé. Écoutez-la bien, comprenez-la bien. Voilà ce que dit Jésus. « Il ne me permet pas de t'oublier, dit le Seigneur. Et ne me permet pas de t'oublier, dit le Seigneur. » Vous avez compris le sens ?« Ne me permet pas de t'oublier, dit le Seigneur. » Parce qu'à la fin, quand les vierges folles sont revenues, il a dit « Je ne vous connais pas. » C'est-à-dire je vous ai oublié. Oublié. Et c'est ma prière. Seigneur, fais tout ce qu'il faut. Mets-moi, mets en lumière toutes mes faiblesses et mes manquements, tout ce qui peut s'opposer à ta grâce, à ta miséricorde, à ta compassion. Que je ne sois pas un objet de scandale pour mes frères et sœurs, ni un obstacle. Que je vive dans ta grâce. Parce que si vous voulez gagner la ville, si vous voulez gagner votre famille, si vous voulez gagner votre famille, vos voisins, vos proches, il faut d'abord que vous-même soyez sûr d'avoir gagné votre salut et d'être réveillé. Vous ne pouvez pas prétendre à quelque chose si vous ne le vivez pas. Vous ne pouvez pas prétendre à quelque chose si vous n'y croyez pas. Vous ne pouvez pas prétendre à une grande destinée si vous n'en avez pas la foi. Et si vous pensez qu'il est possible d'avoir des compromis et de la tolérance au milieu de l'Église corps de Christ, si l'on prétend que l'on peut avoir ces compromis et cette tolérance, alors nous sommes cette Église tiède de la Odyssée. Mais là encore, Jésus dit à cette Église, je châtie celui que j'aime. Et il finit par dire, je viens et je frappe à la porte. Qu'est-ce qu'il est dit après? Celui qui entend. Entend ma voix. Il n'a pas dit celui qui a entendu toc toc toc. Hein. Celui qui entend ma voix. Or, Jésus n'avait encore rien dit. Sauf que quand Dieu frappe à ton cœur, il se révèle à ton cœur entre toi et lui, sans que tout le monde soit au courant. Il frappe à ton cœur et il dit, entends ma voix. Je suis venu pour te sauver la vie. Je l'ai fait il y a 2000 ans à la croix. Ne sois pas de ceux qui veulent me recrucifier une deuxième fois. Mais c'est ça, aujourd'hui, l'état de l'Église corps de Christ. Et c'est pour cela que l'ennemi cherche à ce que l'on n'entende pas la voix de Dieu et qu'on ne leur transmet pas pour guérir, sauver, libérer, délivrer. C'est pour ça que Jésus est venu avec l'onction pour annoncer la parole de Dieu, guérir les malades, délivrer les captifs, libérer les opprimés. Et nous avons cette responsabilité. Je dis bien, nous avons cette responsabilité. Alors Seigneur, je te bénis et je te rends grâce éternellement, Dieu, parce que je sais que le Christ s'est fait entendre, que nous sommes dans les derniers jours, mais que tu cherches une église sans tache ni ride, irréprochable, intérieurement comme extérieurement. Père, parle encore, comme tu l'as fait, tu as permis même à Judas, pourtant choisi, comme le fils de perdition. Tu lui as même donné la possibilité de se repentir. Tu l'as fait pour Pierre, alors qu'il a dit expressément « Jamais je ne te renierai ». Mais tu lui as encore sauvé la vie, comme tu veux le faire encore aujourd'hui. Seigneur, nous sommes là ensemble réunis afin que l'Église soit édifiée sur des fondements saints. Parce que si nous ne sommes pas saints, comment pouvons-nous, Seigneur, retransmettre ta grâce à ceux qui ne te connaissent pas, si nous avons un témoignage désolant? Comment pourrions-nous, Seigneur, démontrer ta miséricorde et ta compassion si nous ne sommes pas clean, purs, comme tu l'entends, si notre témoignage est fourbe, si nous sommes intéressés plus que nous sommes prêts à donner? Seigneur, tu as dit, je châtie celui que j'aime afin qu'il vive et qu'il soit héritier du royaume à mes côtés. Alors éternel mon roi, éternel mon Dieu, réveille, réveille ton peuple et que les yeux s'ouvrent à ta grande miséricorde afin que tu nous montres, Seigneur, la moisson, combien elle est grande. Mais il y a peu d'ouvriers, beaucoup sont retournés se coucher, beaucoup ne se sentent pas concernés. Beaucoup se disent, ce n'est pas mon appel, ce n'est pas ma capacité, je ne suis pas appelé à ceci, je ne sais pas faire cela. Beaucoup viendront avec des excuses et des justifications, mais qui ne tiennent pas, Seigneur. Car quand tu as appelé, tu as, Seigneur, appelé, établi, envoyé, afin que nous portions du fruit. Lorsque tu nous as choisis, tu as donné tout ce qu'il fallait. Ces vierges, quelles qu'elles soient, folles ou sages, avaient toutes la même notion de marcher jusqu'à aux noces de l'agneau en tant qu'épouse. Mais au final, il y a un tri. Mais je veux prier que dans ce lieu, tous ceux que tu as appelés, Seigneur, aucun ne se perde. C'est ce que tu as dit à Dieu le Père. C'est ma prière. Et je sais que c'est la prière de beaucoup. Alors, c'est par amour que nous devons nous corriger mutuellement, mais c'est aussi par amour que nous devons nous exhorter, nous édifier, nous consoler, nous encourager, afin que nous soyons fermes et inébranlables pendant l'épreuve, pendant la tempête, et que nous puissions récupérer ce que nous avons mal conseillé, parce que nous avons encore le temps de les rappeler. Ce sont peut-être ces fils prodigues ou ces filles prodigues. Nous avons été peut-être maladroits. Mais dans la repentance, tu pardonnes, tu rétablis, tu relèves et tu oins à nouveau. Père, que la flamme grandisse et que nous soyons réellement consacrés et sanctifiés dans cette tâche qui nous incombe. Ô Jésus, pardonne-nous. Et par le cœur maintenant, à tout le monde, sans exception. Parle à tout le monde, sans exception. Et renouvelle notre alliance. Merci Seigneur.